qu'il est encore passé, ce maudit chat.
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz.
Bonjour et bienvenue.
Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission des travailleurs du commerce et des industries de
l'alimentation, qui en fonction de l'actualité politique, de commémoration des luttes sociales ou de rencontres de personnes animant des projets de société ou culturels, qui peuvent être une alternative altruiste et autogestionnaire à la société de classe dans laquelle nous vivons, l'anime en direct chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois, sans retenue ni complaisance, sur leurs heures de loisirs, 8 paraît-il, leurs heures de loisirs quotidiens, pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire.
Édito du Monde Merveilleux du Travail du lundi 18 novembre 2024 du calendrier grégorien et 28 Brumaire du calendrier révolutionnaire français, officiellement dénommé jour du coin. Coin, le fruit du connaissier. Il me dit oui, Eric, il a la tête. On n'est pas un jour près. Hein. Le 17 novembre 1780, l'armée rebelle de Tupac Amaru II arrive au village de Sangarara. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit.
Oui, c'est bien. Oui,
allez. Où les autorités espagnoles de Cusco, avaient dépêché une troupe de 900 hommes. Les Espagnols sont battus, ce triomphe permet aux rebelles de mettre la main sur un important butin d'armes et d'équipements, mais une partie des troupes du cacique péruvien, sans se soucier de ses ordres, perpétra des massacres et détruisit l'église locale. Quel sacrilège! Où s'était réfugié un grand nombre de personnes. Tupac Amaru II s'efforçait de mener l'insurrection du mouvement de rébellion indien, parcourant les zones rurales, gagnant à sa cause le renversement de l'autorité espagnole, de nombreux partisans, principalement chez les indigènes et les métis, mais aussi chez quelques criollos, en majorité d'ascendance espagnole. Je n'agis qu'à l'encontre des abus commis par des fonctionnaires de la couronne originaire d'Europe afin de préserver la paix et le bien-être des Indiens, des Métis, des Ambos ainsi que des Criollos et des Noirs. Il me faut à présent me préparer aux conséquences de ces actions. À la victoire de Sangarara suivit une succession de défaites dont la tentative de s'emparer de Cusco. Ce fut sans doute une grande erreur tactique du chef rebelle de n'avoir pas écouté sa femme, Micaela Bastidas, qui lui recommandait de ne pas s'attarder à conquérir les bourgs locaux avant la ville. Le 6 avril 1780, les autorités espagnoles le capturent ainsi que sa famille. Le 15 mai 1780, il fut condamné à mort. Et le 18 mai, après qu'il eût été contraint d'assister à l'exécution de sa femme et de ses fils, deux fils d'ailleurs, l'on tenta de l'écarteler vif, en vain. Finalement, ses bourreaux choisirent de le décapiter, de le dépecer, afin de répartir les morceaux de son corps dans les villages qui avaient appuyé la rébellion. C'était pour les intimider, hein, évidemment. Le décret d'Arreche, qui suivit l'exécution de Tupac Amaru, frappait d'interdiction la langue quechua, prohibait le port des vêtements indigènes et proscrivait toute mention ou commémoration de la culture inca et de son histoire. L'histoire andine donc aura été de ci, de là, parsemée de violences, de cruautés, de rébellions, de luttes légitimes pour l'autonomie et une identité culturelle. Nous recevons ce soir Jean-Michel Rodrigo pour la sortie de Olinda aux éditions Pont Neuf, un premier roman d'aventure et d'amour, un reportage de la situation économique et sociale explosive du Pérou à la fin des années 80. D'où mon édito sur... Voilà, ça t'a paru bien, Jean-Michel?
Là, il colle parfaitement. Je suis loin du micro. Il colle parfaitement. Il colle parfaitement avec ce qu'il y a dans ce livre et ce que j'entendais traiter et qui me paraît fondamental. C'est tout ce que tu as décrit, je pense que tous les pays andins sont encore complètement imprégnés par cette tragédie initiale de la conquête. Donc on est en plein dedans.
Je continue mon édito. Donc c'est un roman, oui, qui s'ancre dans les années de plomb de l'Amérique latine, où la bourgeoisie arrogante et les révolutionnaires doctrinaires exercent leur pouvoir sur les peuples indigènes, encore et toujours, dont l'héroïne éponyme nous conduit à travers les pages d'Olinda en mode tantôt fleur bleue, tantôt fer rouge. Excusez-moi, je me rigole de mes conneries. Donc, pour assurer la technique ce soir, la technique régie, Bénédicte, sans laquelle vous n'entendriez pas Eric à l'animation et au repère historique, souvent au choix des thématiques et aux chroniques grincheuses, mais il n'y en a pas ce soir. Moi-même à la programmation musicale et à la réalisation. À vous la régie.
Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Pensar que te adoraba tiernamente y a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi.
Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar.
Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más.
Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará.
Qué galo con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi.
Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar.
Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más.
Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará.
Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.
Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar.
Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Llegaron con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlará de mí, que nadie sepa mi sufrir.
J'ai les balances.
Vous écoutez Le Monde Merveilleux du Travail sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, 89.4, et c'était Paco avec Amor de mis Amores.
Eh oui, alors ce morceau n'a pas été mis au hasard.
Rien n'est dû au hasard, rien.
Voilà, c'est une chanson qui a été... Alors, vous avez reconnu l'air, enfin pour les Français, vous avez reconnu l'air de La Foule, chantée par Édith Piaf. Mais effectivement, au départ, c'est une chanson qui vient d'Amérique latine, et qui ne s'appelle pas d'ailleurs Amores di Amores, je ne me souviens plus le nom. Mais donc, j'ai tiré ça de ton bouquin, Jean-Michel. Hein, je me suis dit, hop, on va mettre ça.
Très fort, je me suis dit que c'était le hasard qui avait fait, mais non, ça n'est pas le hasard. Tu as lu déjà...
au moins les premiers chapitres.
Tout à fait.
Donc, alors, tu n'es pas un romancier. C'est la première fois que tu... Alors, on t'avait déjà invité.
Mais
t'avais
si, invité c'est un romancier comme... maintenant.
Bah, maintenant, il est devenu, mais c'est pas... Ça...
Mais non, oui.
À l'origine, il n'est pas un romancier. C'est son premier roman. Et c'est vrai qu'on t'avait invité plutôt pour des films documentaires.
Tout à fait.
Donc,
Et j'ai fait un documentaire qui traitait, à plusieurs reprises d'ailleurs, d'un lieu que l'on retrouve dans ce roman.
Villa El Salvador.
Villa El Salvador, qu'on retrouve en partie. Ce n'est pas que Villa El Salvador, bien évidemment. Mais c'est là, c'est présent. Donc tout ce qu'on a raconté à l'époque est valide. Enfin, d'ailleurs, ça veut rien dire, ça est valide. Mais oui, voilà, c'est là. Cette Olinda, dont j'ai pas envie de dévoiler grand-chose, parce que j'ai envie que les gens ils lisent avec surprise.
Oui. Mais, et qu'ils l'achètent.
Et qu'ils l'achètent, cher. Ouais. Non, mais hors blague, c'est une enfant de Villa El Salvador. C'est une enfant de Villa El Salvador. Et donc, voilà, c'est une enfant de ce gigantesque bidonville des années 70-90, et qui est, voilà, elle est l'expression, là je dévoile rien du tout là-dedans, c'est elle est l'expression de ce qu'était le Pérou de l'époque, qui est encore en grande partie un pays profondément, en fait profondément raciste, profondément colonial, profondément héritier de la colonie, et donc tout ce que tu peux lire dans la société émane de ça, il tire ses racines de ce que tu as dit tout à l'heure de la conquête, les révoltes, les premières révoltes, Tupac Amaru, Tupac Katari pour la Bolivie, etc. C'est en fait on n'y est plus parce qu'on est à l'heure des réseaux et on est à l'heure des 50 chaînes de télévision, etc. Mais on y est encore complètement. Et c'est dans ce bouquin d'ailleurs, ça fait partie totalement. Sinon de la dramaturgie, en tout cas, c'est vraiment une toile de fond permanente du bouquin. Ça y est en permanence. Cette fille, cette Olinda, a une trajectoire particulière. Mais elle est l'expression de la révolte de sa génération. À mes yeux, ça, peut-être que personne ne le verra jamais. Et je ne dis pas ça parce qu'on est là, mais c'est une sorte de libertaire qui s'ignore. Mais comme elle n'a pas rencontré de libertaire dans sa vie, elle n'est pas libertaire. Et donc, elle oriente sa révolte autrement. Beaucoup plus durement, beaucoup plus... Enfin, voilà, ça ne plaisante pas. Ça ne plaisante pas et c'est un bouquin qui plaisante... Enfin, voilà, ça défouraille. Comme dirait ma fille, ça défouraille.
Je ne l'ai pas lu intégralement. Parce que je lis lentement, et puis je l'ai depuis peu, parce qu'il est sorti très récemment.
Toi, tu as lu la version
hein.
Quechua.
Toi, tu as lu la version Quechua, évidemment.
Ouais, c'est normal.
Mais c'est vrai que c'est pas découpé en chapitres, mais, parce que c'est pas numéroté en chapitres, mais oui, ça commence fort, comme ça donne le ton assez rapidement quand même.
Voilà. Alors, oui, c'est ça. Donc, bon, ça, on peut dévoiler, parce que c'est les premières pages. Ça part d'un truc qui est vraiment... C'est pareil que, d'ailleurs, l'écartèlement de Tupac Amaru, oui. etc. T'as des moments comme ça qui sont quand même forts, fondateurs du point de vue de l'histoire, etc. T'avais, donc, sans rien dévoiler, t'avais une insurrection au Pérou à l'époque d'un mouvement qui s'appelait le Sentier Lumineux, Sendero Luminoso, par parti communiste, marxiste-léninisme, machin, Sendero Luminoso, etc., qui étaient des maoïstes purs et durs, plutôt, enfin non, pur et très dur, qui ne plaisantait pas avec un héritage genre révolution culturelle plus goulag de Staline, voilà, ils étaient, c'était des radicaux, et je sais plus ce que je voulais vous dire. Alors là, c'est terrible. J'ai Alzheimer.
On parlait de la violence, effectivement. Tout pas
voilà, c'est ça. Donc, voilà, excuse-moi. Donc, ce bouquin, il commence effectivement dans un événement relativement sinon fondateur, du moins qui a marqué durablement les esprits de l'époque des années 80, c'est que déjà des centaines de membres du Sentier Lumineux, jeunes militants qui n'avaient rien fait, militants déjà, leaders, et entre les deux, militants qui avaient déjà fait coup de feu, qui éventuellement déjà avaient tué des gens, etc. Ils étaient en prison, et ils se sont soulevés, ils se sont révoltés, et cette révolte des prisons a été matée dans le sang, sans plaisanterie aucune, malgré la présence du congrès de l'International Socialiste à Lima à l'époque. Ça, dans le bouquin, c'est un des seuls phénomènes, un des seuls faits historiques vrais. Comme je dis aussi, il y a deux personnages qui existent vraiment, dans la réalité de l'époque. C'est le président officiel du Pérou qui s'appelait Alain Garcia, et c'était le président, le dirigeant du Sentier Lumineux, autoproclamé Presidente Gonzalo, le président Gonzalo. Voilà. Ça, ces deux personnages-là existent vraiment. Tout le reste est pure invention. Fiction, et complètement fiction. Il n'y a pas un personnage. J'ai déjà dit, il y a des amis péruviens ou des amis qui ont vécu au Pérou. Vous ne prenez pas la tête à chercher qui est qui là-dedans, etc. Il n'y a pas de qui est qui.
Il y a Willy Brandt quand même.
Et il y a Willy Brandt. Willy Brandt, de manière très courte. Mais mes amis péruviens ne connaissaient pas Willy Brandt, donc ils n'avaient pas trop se poser de questions. Mais par contre, après, d'une certaine manière, ce qu'on peut dire, c'est que tous ces personnages-là sont réels. Ils ne sont pas vrais, et ils sont réels. C'est-à-dire que à partir
ils sont tous porteurs un petit peu de...
Et ils sont tous des mélanges de... Chacun des personnages est un mélange de 1, 2, 3, 4 personnages que j'ai rencontrés et que j'ai croisés, ou éventuellement que j'ai pas connus, mais sur lesquels j'ai lu ou que tout le monde connaissait, etc. J'ai volontairement mélangé, mais je pense que... Et c'est un grand débat sur documentaire ou fiction, sur réel et imaginaire, etc., c'est que tu peux t'approcher du réel encore plus, ou presque, à moins de faire un travail d'historien, ça c'est autre chose, vraiment précis, etc., encore que dans l'histoire, tu peux aussi t'inventer faire les romans officiels de l'histoire, mais voilà, là, je me suis dit, d'une certaine manière, je me suis dit, au fur et à mesure que j'écrivais, je me suis dit, la fiction est en train de me donner la liberté de pouvoir dire au plus près de ce que j'ai ressenti, de ce qu'il y avait au Pérou et dans la violence de ce Pérou de l'époque, et en même temps dans les paradoxes. C'était un pays de... Mais il y a plein d'endroits comme ça dans le monde, c'est pas le seul pays, hein. Et c'est pas le seul endroit et c'est pas le seul moment historique. Mais voilà, moi j'avais envie de mettre en évidence, mettre en avant tous les paradoxes et les contradictions, etc. Et c'est marrant parce que les toutes premières personnes qui ont lu, des gens pas très loin de chez moi, dans le sud de la France, etc., c'était vachement marrant parce qu'ils sont venus me voir et m'ont dit « Mais alors, bon, il y a un truc qu'on a du mal à comprendre parce que on sait... » C'était joli, ça. « On sait pas qui sont les bons et les méchants. » Alors je dis « Bah, vous allez lire et puis vous allez vous faire... » Vous verrez quand même qu'on va avancer quand même dans l'histoire, mais effectivement, c'est jamais aussi simple que ça. Voilà, grosso modo. Voilà, grosso modo. Et je peux pas dire trop plus sur l'histoire, sur le bouquin lui-même. Mais voilà, c'est complètement ancré là-dedans. C'est ancré aussi dans, le poids, finalement, le poids extrêmement négatif, en réalité extrêmement négatif, d'un mouvement supposément révolutionnaire, qui, comme il a un verbiage révolutionnaire, plus une action entre guillemets révolutionnaire, bam, qui impacte, qui plaisante pas, crée à un moment donné des illusions à son égard, pousse à l'engagement de milliers, de dizaines de milliers de personnes dans son entourage, et les amène vers une impasse assez sanglante.
Mais c'est un petit peu comme ça se passe partout, ou peut-être un petit peu, justement, si on fait le lien avec l'actualité, avec ce qui se passe par exemple à Gaza, dans la bande de Gaza, où les exactions des colons ont poussé sans doute certains jeunes palestiniens à rentrer dans le Hamas ou, tu vois, et à répondre.
C'est ça.
C'est ni des salauds, ni des... Mais c'est des gens qui ont besoin de réagir à une situation à une oppression ou à une situation condamnable, hein, puisqu'on les exclut, on détruit leur maison. Donc voilà.
C'est des moments donnés où tu laisses plus la place. justement à la nuance, au paradoxe. Ça ne veut pas dire, quand je dis nuance, paradoxe, ça ne veut pas dire qu'on est dans un monde où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et que finalement il faut toujours tout comprendre, et que chacun a sa part de bien et de mal. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ce genre de situations qui sont de véritables enfermements empêchent les gens de réfléchir et empêchent les gens de penser. C'est-à-dire que les mecs qui ont rejoint pendant un temps donné, pendant un temps certain, au risque de leur vie et en payant de leur vie, qui se sont engagés dans un mouvement comme celui-là, franchement, les mecs qui étaient des paysans des hauts plateaux des Andes. Alors, je vais dire, les subtilités des polémiques entre Mao Tse-tung et Lin Piao, c'était très loin de leurs préoccupations. Ouais. Mais, en même temps, ils ont été en partie. Puis là aussi, c'est nuancé. Tout le monde n'était pas dans cette histoire-là de la même manière. Voilà. Mais, tu te laisses entraîner. Et puis, et ce qui domine, c'est le retour, finalement, à la préhistoire de l'humanité, qui est que, bam, tu réfléchis pas, tu prends ta massue, et puis, boum, tu mets un coup sur la tête de celui que tu prends pour un ennemi. Et finalement, tout autre est ennemi. Mais ça, c'est aussi un truc qui est un poids de l'époque coloniale énorme. C'est génial. Il fallait absolument que les Noirs prennent les Indiens pour des ennemis inférieurs, les Indiens prennent les Métis pour... etc. La colonisation américaine, mais du nord du Canada jusqu'à la Patagonie, n'a été que ça, divisée pour régner sur des fondements racistes. Et on est toujours dans des sociétés extrêmement racistes. Ouvertement. Et là, on a l'impression que la bête immonde se lâche à nouveau. Et on est, c'est quoi les dominantes des débats aux États-Unis pendant les élections? Il y a eu énormément de questions sur les races, sur les noirs, les latino-américains, les machins, etc. Mais en Argentine, c'est la même chose. Et puis au Brésil, c'est la même chose. Et on ose très aisément, ce qui était moins vrai à une époque. Là, on ose très aisément dire que l'autre, c'est un individu à abattre. Parce qu'on défend son propre territoire, ses propres intérêts, etc., etc. Donc, voilà. Et je voulais que tout ça ressorte. Et c'est marrant que tu aies commencé cette émission comme ça, avec les siècles passés. C'est que j'évoque aussi à plusieurs moments dans l'histoire, parce que cette personne-là va rencontrer quelqu'un qui vient pas du tout de ce monde-là. Pas du tout, qui est étrangère au Pérou, et pour que cette personne-là comprenne le Pérou, comprenne ce qu'il voit de ses yeux, elle lui raconte non pas, elle ne lui explique pas ce qu'il serait censé voir et comprendre, elle lui parle des siècles passés, elle lui parle des temps anciens, elle lui parle de tout ce qui s'est passé avant et dont ils sont les héritiers et donc qui continuent à subir. Et voilà, et continuer à subir, ça veut dire dans la chair, c'est pas seulement dans la pensée, dire ouais, l'histoire, les Espagnols, ils ont pas été sympas avec nous, les Indiens, autrefois, jadis naguère. Non, mais ils ont pas été sympas il y a 5 siècles, mais ils sont toujours pas sympas, les descendants sont toujours pas sympas, et c'est toujours selon les mêmes règles, et c'est toujours les mêmes histoires. Et quand les gens d'aujourd'hui se battent pour refuser qu'il y ait une multinationale sur les mines qui viennent leur bouffer leur terre du jour au lendemain, c'est exactement la même chose que les batailles qu'ils menaient il y a 5 siècles contre les conquistadors qui venaient avec les épées les pourfendre pour leur piquer leur terre. C'est exactement les mêmes histoires. On est dans les mêmes histoires.
L'héroïne, parce que c'est une héroïne, hein, il faut un roman a besoin d'un héros, là c'est une héroïne, a besoin aussi d'une héroïne haute en couleur, ce qui est son cas, parfois dure, parfois douce, mais elle s'appuie quand même sur ce qui la met en valeur, c'est quand même la personne dont parle à l'instant qu'elle rencontre et qui alors c'est assez bien, moi j'ai bien la part, je suis assez sévère en général sur les romans que je lis parce qu'au 20e siècle il n'y a pas grand chose, au 21e il y en a encore moins des romans intéressants pour moi. En tout cas, on est loin de Balzac et de ce qui a fait la force de la littérature, une belle littérature. N'empêche que moi je trouve personnellement, j'ai un jugement de valeur, mais le roman était assez exceptionnel. Il y a longtemps que je n'avais pas lu un roman de cette qualité. Il faut qualité narrative, qualité, la densité, l'épaisseur des personnages, la réelle psychologie aussi, y compris de tous ceux qui sont des personnages mineurs, des seconds rôles, on dirait aussi au cinéma, voire des figurants. Et donc c'est y compris alors il y a des animaux aussi qui entrent, les esprits. Enfin, j'ai pas tout dévoilé, mais il y a vraiment pour chaque élément une épaisseur qui se fond, qui se conjugue avec l'action et puis l'idée qui conduit au moment où les mots se suivent, qui conduit le lecteur à bah pas s'arrêter, parce qu'en fait je suis pratiquement d'une traite, donc c'est un signe, c'est une qualité assez remarquable d'écriture. Alors, je le dis, achetez-le, pour ceux qui ne l'auraient pas encore. Alors, donc Olinda s'appuie sur un personnage qui n'est pas du tout une... alors ça augmente, ça donne du ressort à sa propre dynamique, hein. Et lui-même a une histoire. C'est ça qui est assez... qui fait un peu pendant. Alors au début, alors par contre là, ça m'a un peu surpris, parce qu'ils ont par touche, on sent d'où il vient, ce qu'on lui a transmis, ce que ses parents ont vécu. On est aussi dans la transmission d'un malheur, d'un héritage de souffrance et de... Et comme un écho à la situation, ce qui lui permet peut-être, je pense d'ailleurs, de réaliser, finalement, même si c'est un monde qu'il connaît peu, de réaliser que bah, là aussi, au Pérou, il y a une situation qui est semblable, même si elle est moins, victimisée, ou moins... moins porté par les... C'est vrai que le sentier lumineux, on n'a pas entendu... Enfin, à part ceux qui s'y intéressaient vraiment à l'histoire du vaste monde, le sentier lumineux n'a pas fait beaucoup de la une de la presse en France. Hein. Et encore aujourd'hui, y compris des mouvements dont tu as parlé lors de ta présentation vendredi, Pol Pot, bon, ça a duré, c'est un espace-temps, hein, alors qu'en fait, il y a encore les séquelles, les plaies béantes au Cambodge qui sont visibles. Donc, ce personnage, lui, moi, il m'a beaucoup intéressé, parce qu'en fait, il est plein de ressorts. C'est une espèce de... Alors, comme une... Il vient titiller sans cesse l'héroïne. Alors, c'est vrai que c'est difficile de dire les choses sans dévoiler l'histoire. Ouais, c'est ça, ouais. Il vient titiller l'héroïne. Genre, il réamorce, en fait, en quelque sorte, la dynamique du roman. Et puis, il y a des personnages truculents, hein, qui ont l'air complètement fous, mais en fait, qui sont très sages. Je pense aux vieux. On ne dira pas plus, hein, sur ce... c'est un prêtre, un prêtre d'une étoffe particulière. Donc, et tous ces personnages qui s'auto-alimentent dans le roman, donnent une intensité assez rare de lecture, en tout cas, qui est un plaisir au lecteur. Et j'ai cherché à terminer le livre, même si à un moment donné, je me suis posé la question, et finalement, je m'étais posé la question, et j'avais la réponse quand j'ai dû terminer le livre, de l'issue de cette histoire. Et elle ne pouvait pas être autrement, me semble-t-il. Et là encore, c'est en nuance, parce que ce n'est pas totalement une catastrophe, c'est pas totalement une réussite, c'est plus compliqué, plus compliqué.
On n'en saura pas plus, quoi.
Mais c'est vachement, enfin, moi je dois avouer, moi, d'abord je suis un émotif, ça a dû se voir l'autre soir d'ailleurs, parce que deux, trois fois j'ai un tremblement dans la glotte, mais voilà, alors en fait je bois du tilé dans ce que tu dis, pas seulement parce que c'est pas seulement parce que c'est gentil ou sympathique ou aimable ou etc. C'est dans le fait que c'est exactement vers ça que je voulais tendre. C'est-à-dire que tu confirmes les préoccupations que j'ai eues dans le travail dans de construction. Parce que c'était mes soucis. Ce que tu as souligné, c'était des soucis que je voulais régler. Je voulais absolument que Olinda, qui d'ailleurs va jusqu'à le titre du bouquin, c'est le personnage principal. Mais c'est une héroïne sans être une héroïne, c'est une bimbo polpotienne. Non, je blague, c'est pas du tout ça. Mais elle est comme nous tous. Elle a besoin pour être, elle a besoin des autres.
De l'autre.
Elle a besoin de l'autre. Et elle a besoin des oppositions, elle a besoin d'avoir des sentiments par rapport aux autres. Et les autres, en même temps, ne sont pas, il fallait trouver l'équilibre aussi, les autres ne sont pas exclusivement des faire-valoir de elle. Ils sont aussi eux-mêmes. Mmh. Et même, y compris dans le décrescendo, même les personnages secondaires. Mmh. Fallait leur donner de la consistance. Et d'une certaine manière, alors c'est la déformation professionnelle ou de mes études ou de mes passions d'ailleurs, c'est que les histoires sont des éléments qui peuvent te permettre de donner ça, parce que quasiment chacun des personnages est d'une certaine manière le représentant d'une histoire qui va en complément, en rajout, en résonance avec l'histoire de ton personnage, là t'es dans la vie du monde de quoi on s'éloigne quand on est dans l'incroyable superficialité des choses d'aujourd'hui, on s'éloigne de ça, alors qu'en même temps c'est tellement passionnant les histoires, et quand les histoires se rencontrent et s'écoutent, voilà. Donc,
il y a une interférence en permanence entre les personnages, quel que soit leur degré d'implication, puis l'importance que tu leur as donnée dans l'histoire. Et en fait, c'est comme dans la vie, c'est-à-dire que y a des éléments extérieurs qui viennent changer ta trajectoire, qui viennent l'accélérer, la freiner, l'enrichir, te distiller le doute. Et tu réagis en fonction de ça, parce que tu es un être. On a vraiment des personnages qui vivants. On a vraiment un roman vivant, en quelque sorte. Il y a tellement de romans de poseurs, même des grands noms, un peu par obligation intellectuelle que je lis, qui sont pas à la hauteur de ce roman, et je vous ai, et ça, alors c'est pas gentil, non, ça non, aurait été c'est... une affreuse bouse, je te l'aurais dit,
oui, non, bien sûr.
Mais là c'est il y a vraiment franchement des qualités d'écriture, des qualités romanesques, et en même temps un foisonnement d'informations. Ça c'est l'épaisseur de tes documentaires, hein. C'est-à-dire qu'il y a un foisonnement de... Moi qui ne connaissais pas, qui ne suis pas versé dans l'histoire latino-américaine, ni d'hier comme Fabrice, ni d'avant-hier, j'ai ouvert des bouquins pour savoir qui était qui. Et, effectivement, j'ai trouvé, parce que c'est mon défaut, je cherchais un peu qui pourrait être qui, en très peu de temps, parce que j'ai pas eu le temps d'aller ni en bibliothèque, ni consulter des documents d'archives, mais c'est très très riche, et donc c'est un plaisir aussi, parce que la lecture c'est aussi du plaisir.
Ah, pour te remettre de tes émotions, on va faire une petite pause musicale encore. Et je confirme, Eric, c'est pas le genre à faire des compliments de manière générale. Donc quand il en fait, il faut le garder l'enregistrement.
Tu l'enverras.
Ai-je besoin de les présenter ? Hein ? Ai-je besoin de les présenter ?
Eh oui.
Indochine.
C'est ton boulot.
Avec, avec l'aventurier 1982. Oui, sur Radio Libertaire, et eh oui.
C'est un groupe qui est cité aussi dans le...
De quoi ? De quel groupe tu penses ?
Indochine.
Oui.
Le groupe.
Voilà. Mais en Indochine, c'était un groupe très très connu au Pérou.
Oui, je ne sais pas.
C'était un groupe chez... Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, mais parce qu'ils ont fait plusieurs tournées en Amérique latine.
Oui, on se
tu vois. Et ils étaient, mais c'était vraiment... Et ça, et Francis Cabrel.
Ah oui.
Cabrel, alors là, tout gamin de 15 ans jusqu'à 23-25 ans qui touchait un peu une guitare, il faisait plus du Francis Cabrel que du flamenco, quoi. C'est, ouais, c'était Francis Cabrel, la coqueluche de ces... Ouais, c'était marrant. Et en français, il hein, n'y avait pas... Y a, enfin, une fois ou l'autre, il hein, y a eu des chansons de Cabrel traduites en espagnol et puis jouées par des mecs de là, mais sinon, c'était, ça passait en français.
Voilà. Voilà pour l'info. Donc, c'est pour ça, encore... c'est pour ça qu'on a passé l'aventurier d'Indochine. C'est pas, l'aventurier n'est pas cité dans le bouquin. Ni le groupe Indochine.
Non.
Hein, c'est...
Non, non.
Donc... Il y a 15 jours, on a présenté ton bouquin hein, à nos auditeurs, à nos auditrices. Et Eric, effectivement, fait une remarque sur la couverture du roman. Il a dit que tu l'as peut-être pas fait à l'antenne, mais enfin, en tout cas, tu m'as fait une remarque sur le personnage de couverture qui était intéressant. J'espère que c'est pas Olinda. Hein ? Ça a une sale gueule, hein.
Non, mais
non, je plaisante. Non, là, c'est...
Non, mais t'as raison.
Ah, donc, mais c'est pour aussi inciter les auditeurs, les auditrices à aller chercher. Mais qu'est-ce qu'il y a sur cette couverture ? Ouais. Ah, je crois que c'est une photo de. C'est toi qui a fait la photo.
C'est moi qui ai fait la photo. Mais ce que je trouvais intéressant. Alors, ça n'avait pas de sens. Enfin, je trouve que ça n'a... au départ, des gens avaient suggéré qu'il faut mettre une photo d'une femme. Une trentaine d'années, hein, qui aurait très bien pu être Olinda. Je disais, c'est un non-sens. Cette femme que vous mettriez n'est pas Olinda. Et là, je trouve pas que le lien entre l'imaginaire et le réel soit très judicieux entre un roman et nous mettre la photo de quelqu'un. Absolument besoin de titiller les gens en disant c'est elle que vous devez avoir dans votre tête pendant que vous lisez le bouquin. J'aimais pas l'idée du tout. Et j'ai suggéré deux, trois photos, mais des photos de près comme ça, j'ai suggéré celle-là parce que pour moi, cette photo, d'une certaine manière, elle symbolise bien des choses dans le bouquin. C'est-à-dire que c'est une sorte de mystère.
Il y a un esprit.
Voilà, c'est une mystère. C'est un esprit. On ne sait pas bien d'ailleurs. Si c'est un homme ou si c'est une femme. On ne sait pas. Plein de gens ont dit que c'est un homme, mais il y a des gens malins là. En fait, c'est une femme.
Voilà. Déjà, tu dévoiles un peu du mystère, là.
Non, mais en fait, c'est un homme. C'est un homme.
Bon, maintenant, de toute façon, on choisit son genre. Alors, ouais, ça peut être ce qu'on veut.
Par ailleurs, c'est très andin. C'est très andin.
Ouais.
Par ailleurs, c'est comme ça que se déguisaient les mecs du Sentier Lumineux quand ils attaquaient. L'armée, etc. Sauf que les mecs du Sentier Lumineux, comme l'armée, c'était sans couleur. C'était un truc noir, un truc qui fait peur, machin. Là, on est dans un carnaval très traditionnel du monde amérindien, donc il y a forcément des couleurs. Donc il y a une multitude de choses non dites. Chacun y voit son truc, mais il y a une multitude de choses qui traduit ce pays et qui traduit aussi une partie de ce qu'il y a dedans. Etc. Voilà. Et puis on n'a pas. Tu vois,
ça accroche, c'est-à-dire que tu vois ça sur une vitrine de librairie, tu te dis, toi, c'est quoi ce personnage ? Enfin, ça doit susciter l'intérêt, la curiosité, tu as envie de prendre le bouquin, puis de voir, le retourner, voir ce qu'il y a de quoi ça cause, etc.
J'espère. Mais effectivement, les premières personnes, en plus, tout le monde pose la question. Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est qui ça ? C'est quoi ça ?
Bah, c'est intriguant parce qu'effectivement, on sait. Ça donne pas.
Je me suis pas posé des questions.
Mais toi, t'es pas comme les autres, toi.
Bah, si.
Un truc en plus, toi.
Mais non, je sais pas, mais non, je me suis dit. Ça m'a fait le coup. Ça m'a plutôt envie. Ouais, ça m'a envie de le saisir, le bouquin. c'est tout.
Oui, non, mais c'est vrai que là, en général, les illustrations les couvertures en général reprennent un petit peu, tu vois, tu as un manoir ou tu as un truc, mais tu vois, ça te donne déjà une idée de tu vas rentrer là-dedans, dans le, et là, tu sais pas trop où tu vas, en fin de compte.
Non.
Parce que c'est un petit peu un, ça pourrait être un, tu sais, c'est un peu le costume effectivement du guerrier rose ou du Black Bloc, mais sauf qu'il est coloré.
C'est ça. Mais ça pourrait être ma fille qui est pour les mômes, hein, au début elle pensait que c'était Olinda déguisée. Je lui dis, je te rappelle ma fille, que Olinda n'existe pas. Mais voilà, elle pensait que c'est une des premières à avoir pensé, mais elle fait partie de la génération où c'est forcément 50-50, donc c'était, bon, elle était pas sûr que c'était une femme, pan, Olinda, déguisée. Voilà, ça reste, ça contribue au mystère.
C'est un lama, chers auditeurs, c'est un lama qui vient faire son tiercé, il est à la porte du PMU,
c'est ça.
Hein, à Lima. Donc,
bon. Ouais, alors, en fin de compte, le personnage, c'est un petit peu le... La syncrétisation peut-être de tout ce qu'on peut retrouver au Pérou, non ? Bah, tous les sentiments, toutes les rancœurs, tous les plaisirs, tous les...
Ça parce
que,
beaucoup.
Parce que c'est... Enfin, moi, j'ai assez peu lu, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle est... C'est à la fois la beauté, c'est une femme, visiblement assez jolie, très attrayante en tout cas.
Ça baisse, quoi. Bah oui, c'est bien, c'est ça qui est important, c'est la vie, ça aussi.
Je veux dire, elle a toutes les caractéristiques d'un peuple, hein. En fin de compte, elle vit, elle est vivante, donc elle est attrayante, comme tout un chacun, chacune, et elle peut être dure aussi. Il y a... est-ce que c'est pas... Est-ce que inconsciemment ou consciemment, ça t'a pas mis un petit peu dans Olinda, tout le... Le Pérou ?
Non, alors oui, bien sûr, bien sûr. Mais j'y ai aussi mis ce qui me paraît important. Et alors là, de ce point de vue-là, bon, c'est un concentré, mais pas tant que ça. Mais c'est quand même un concentré. C'est le fait de rappeler, dans un pays comme le Pérou, qui a, alors là aussi, c'est tradition. Alors, tradition indienne par certains côtés, tradition coloniale de l'autre, c'est un pays extrêmement, de culture extrêmement macho. L'homme, el hombre, on dirait masculiniste aujourd'hui, mais enfin voilà, c'est los machos. Bon, et il y a eu en permanence la négation du rôle que jouaient les femmes, à tous les niveaux, à commencer par celui de l'économie, la famille, l'économie, les arts, enfin bon. Et en même temps, on est dans un pays qui, et ça on l'avait abordé quand on avait parlé de Villa El Salvador, etc., c'est qu'on est dans un pays où, dans les moments de crise, c'est pas le seul pays comme ça du tout, c'est pas du tout le seul pays, mais là-bas ça a été extrêmement évident et extrêmement virulent. À partir du moment où les hommes, los machos, y compris de populaires, de la classe ouvrière, de la paysanne, etc., ils sont dans une situation de crise absolue, où ils sont tous foutus dehors, il n'y a plus de boulot, etc., ils perdent une grande partie de leur pouvoir dans le sens où ils ramènent plus à bouffer chez eux. Et surtout qu'en plus, ils se laissent dans les moments de crise, il n'y a aucun jugement là-dessus, c'est même pas une caricature, l'alcool est un fléau, comme partout dans le monde, on a foutu l'alcool dans les pattes des gens pour mieux les écraser, donc il y a crise, et puis il n'y a pas de pognon, mais ils picolent quand même, et les nanas sont seules à se démerder pour nourrir tout le monde, y compris le mari qu'on va chercher au bar du coin, la buvette, machin, qu'on ramène à la maison. Bon. Et elles, par contre, elles ont utilisé toutes les traditions féminines, non pas féministes, féminines du monde amérindien, qui est que quand t'es un peu dans la mouise, et qui a mangé pour trois et que t'es 12, et ben tu fais une grosse gamelle commune, et puis les morceaux tu les fais plus petits, t'inventes des trucs avec des feuilles et des machins, et t'arrives à faire une gamelle où les 12 mangent. Et donc comme les 12 mangent, c'est mieux en plus, ils mangent ensemble, et quand ils mangent ensemble, ils parlent, et puis ils rêvent et ils inventent des trucs collectifs, et puis voilà, papa. Bon, toute la période de crise a été extrêmement propice à l'organisation des femmes, de manière extrêmement puissante. On l'avait évoqué, il y avait une fédération des femmes, il y avait 38 000 femmes organisées dans une seule fédération.
Elle transparaît d'ailleurs dans le roman. Hein, dans le...
Oui. Ouais. Et je voulais qu'elle, enfin je voulais, elle est l'expression de ça aussi, c'est-à-dire qu'elle est l'expression d'une, et en même temps j'ai pas voulu l'enfermer dans une femme qui soit exclusivement une femme de bidonville, ou exclusivement une femme de, enfin, voilà, elle est, alors là pour le coup elle est effectivement multifacette, elle est multifacette, mais elle représente ça, elle représente l'énergie incroyable d'une multitude de femmes au Pérou. Mais c'est la Bolivie, c'était pareil.
Cette capacité dans le roman qu'elle a, l'héroïne, à en fait être interclassiste. Ouais. C'est bien chez les militaires, après elle se retrouve chez les diplomates, dans la villa El Salvador, hop, elle se retrouve dans la forêt, enfin je veux dire. Et elle a cette capacité à être...
Une adaptation.
Alors, pas à l'aise, mais à prendre son parti dans ces différents milieux avec... Et c'est même pas de l'aisance, c'est ça qui est subtil dans le bouquin, c'est que c'est pas fait comme un super-héros, une super-héroïne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça boite, hein. Dans la forêt, tout ça, ça boîte grave. Et quand on est même en ville ou avec les folles dingos du Sentier Lumineux, petit jugement de valeur, je pense que c'est les folles dingos, ça boîte aussi. Et elle arrive comme ça, en fait, elle est ce qu'on fait un peu tous. Enfin, moi, c'est un peu, pour moi, personnellement, ma conclusion, c'est que une espèce de funambule. J'aurais funambulé toute ma vie sur un fil. Alors je peux peut-être la gueule, je remonte sur le fil. Elle le fait avec grâce et sur 300 quelques pages, avec une certaine efficacité. Enfin, c'est la tienne d'efficacité, mais du coup, le roman en prend toute sa valeur. Et pour revenir à Olinda, ce que je te disais, hors antenne, que ne savent pas nos auditeurs, c'est qu'Olinda, et j'ai retrouvé le nom de l'auteur, Olinda était un roman donc paru chez l'Harmattan, puisqu'on parlait de l'Harmattan.
En rantaine,
en 2003. Et alors ça se passe au 19e siècle, si j'ai bien compris, l'histoire se passe au 19e siècle. Alors j'ai pas pu accéder au roman, et c'est Michael Ainsworth. Et ça se passe alors à Olinda, pas très loin de Recife, au Brésil.
C'est une ville.
Et Olinda est une des premières villes du Brésil, d'ailleurs, fondée au XVIe siècle. Et donc, alors, j'ai regardé un peu ce que c'était, c'est assez magnifique quand même. Hein. Bon, alors, petit aparté. Et en fait, il y a très peu d'Olinda dans le paysage de l'Internet. J'ai pas trouvé beaucoup. Il y a très peu de femmes qui se prennent Olinda.
Du coup, comment
j'ai trouvé des femmes qui se prennent Olinda. Je ne te donnerai pas la liste, hein. Pas exagéré quand même.
Comment t'es venue cette idée de le prénommer Olinda et pas Maria ou...
Ça, c'est compliqué à dire. C'est, dans la cinquantaine de noms que j'aurais pu donner, il y en avait 3-4 qui me plaisaient plus que les autres. Et puis, ça pour le coup, c'est. Mais ça ne veut rien dire parce que il y a un personnage que j'ai rencontré dans ma vie, avec qui j'ai eu beaucoup de relations pendant longtemps, mais pas de relations personnelles, des relations amicales et même relativement distantes, parce que voilà. Et elle s'appelait Olinda, je lui ai emprunté son prénom, enfin qui n'est pas le sien, qui est le prénom, mais ça me plaisait bien, c'était en même temps aussi le sien. Mais par contre, alors là, elle n'est nulle part ailleurs, cette Olinda réelle, voilà, n'est nulle part ailleurs dans ce livre que dans le titre. Voilà, c'est pas du tout quelqu'un qui pouvait par ailleurs influer, avoir une... Enfin,
incarner
ou rentrer dans un des personnages, être un bout de personnage. Voilà, non, c'est pas... Là, c'est le prénom. C'est un prénom,
c'est un prénom, mais c'est vrai que c'est pas un prénom courant pour nous. Alors, peut-être en Amérique latine, peut-être.
Oui, mais même pas à mort. Et effectivement, si mes souvenirs sont bons, t'as raison. Je pense que c'est un prénom qui est plus courant au Brésil qu'ailleurs. Ça veut pas dire que c'est un prénom portugais. C'est un prénom, à mon avis, un prénom ancien qui existait dans la péninsule ibérique au moment de la conquête, etc. Donc c'était très à cheval entre le Portugal et l'Espagne. Il y a plein de prénoms comme ça. Et voilà, c'est. Mais c'est vrai que même au Pérou, c'est pas très fréquent comme prénom.
Il ne faut pas oublier que la conquête s'est faite. Il y a eu des moments, enfin, dans l'histoire où l'Espagne et le Portugal étaient deux royaumes distincts, voire ennemis, et puis il y a un moment où ils avaient une espèce de cause commune. Hein. Donc il y avait des transferts de population assez réguliers. Il ne faut pas imaginer que circulait moins qu'aujourd'hui. Hein. Ils circulaient différemment. Quoi.
Mais beaucoup.
Et avec la colonisation a permis aussi cette circulation transatlantique, pas forcément très
réjouissante.
Très réjouissante, mais bon, en tout cas, ça avait des transferts de population. Quoi.
Ouais. Donc voilà, il n'y a pas. Parce qu'après, dans le truc processus, entre guillemets, processus de création, c'est. Les autres prénoms qui me plaisaient bien étaient justement des prénoms de gens que je connaissais trop bien. Et qui aurait pu avoir d'ailleurs quelque chose dans le bouquin. Et là, j'avais pas envie, parce que j'avais pas envie d'avoir quelqu'un de vrai dans ma tête. Je sais pas si je m'explique bien. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est tous ces personnages-là sont des mélanges, une multitude de personnages. Donc, à un moment donné, moi, dans ma tête, quand j'écrivais, j'étais dans une sorte de fou. Pour moi, c'était Olina, c'était pas Gardner. Il n'y avait pas dans ma tête, pas du tout. En fait, j'ai expliqué ça hier ou avant-hier à un fils, c'était des silhouettes. J'avais des silhouettes dans la tête, des silhouettes, des attitudes, voilà, mais pas un visage précis. Ça peut paraître bizarre, hein, mais voilà, c'est et choisir un prénom de quelqu'un que je connaissais très bien m'aurait plus bloqué. J'avais pas envie de ça.
Nous séparer, comme c'est pas, enfin comme nous, enfin nous les lecteurs, enfin ceux qui ont eu la chance hein, de se procurer le bouquin. C'est vrai, quand on voit la couverture et bah du coup on n'a pas de clichés sur le. Sur le personnage qu'on va rencontrer. D'abord, le prénom ne nous parle pas. C'est pas quelque chose, tu vois. Dans Rabbit, on ne sait pas si c'est un prénom, effectivement, un nom de village. On est obligé de lire pour découvrir. Et même le personnage de couverture ne donne pas beaucoup d'indications. Donc, du coup, effectivement, on peut se faire son propre portrait.
C'est un
très bon choix. Bravo.
Et d'ailleurs, sauf erreur de ma part, il n'y a pas son nom de famille. Non. Ça reste Olinda, son prénom. Donc c'est. Le prénom. Chez les catholiques, le prénom, c'est plus important que le nom. Hein, parce que tu es baptisé avec ton prénom, etc. Bon, et là, peut-être que. C'est ce qui rend le personnage un peu unique, un peu exemplaire dans son dans le roman et qui tient tout le mystère avec effectivement, comme dit Fabrice, c'est-à-dire qu'on voit quand tu saisis tu vois ce personnage qu'on dit c'est un homme, une femme, on sait pas trop, hein, un guerrier, machin, un lama déguisé, et tu te donnes pas de visage, donc tu te laisses. Le visage, tu le construis. Moi, j'ai pas réussi à le construire. J'ai pas réussi à... Alors, tu sais, quand tu regardes des images du Pérou, parce que tu te documentes, etc., parce que forcément, on plonge, comme je te dis, c'est tellement riche qu'il faut aller chercher des infos. Même avec ça, en fait, c'est... Il n'y a pas un visage péruvien... il y a un type plus andin, et encore, c'est pas vrai, parce que j'ai fait passer des images et des images, et j'ai pas réussi à me fixer sur un type particulier.
Non, okay. Je pense qu'effectivement, on sent bien les silhouettes, parce qu'effectivement, moi non plus, j'ai pas lu l'intégralité, je le répète, mais effectivement, à la limite, j'ai un corps, mais j'ai pas de tête. J'ai pas de tête précise, quoi.
Je suis très content depuis le début de cette émission. Pour l'émission elle-même et pour ce que j'entends, je suis très content. Mais là, je suis très content aussi parce que. Pourquoi si je devais expliquer. Tout ne s'explique pas forcément. Il y a des fois, tu fais des trucs. Mais là, il y a une explication quand même. C'est que. Elle représente d'une certaine manière. Enfin, je ne voudrais pas dire de bêtises non plus, mais. Dans ce chaos global absolu qu'est le Pérou de l'époque, elle représente un, elle représente la révolte, mais elle représente aussi une certaine modernité. Les modernité, là aussi, c'est un mot galvaudé, ça ne veut pas dire grand. Voilà. Mais ça veut dire quand même une chose, c'est que des gens peuvent être, ce qu'elle n'est pas complètement, mais peuvent être, ils verront les lecteurs, elle n'est pas complètement indienne, mais des gens peuvent être très indiens, très amérindiens, très physiquement amérindiens, mais ils sont nés en ville, et ils sont nés dans un bidonville, ça ne leur fait pas plus du tout la même dégaine que papa-maman quand ils étaient au village, et que mamie et arrière-grande-mamie, etc. Et pourtant, c'est exactement les mêmes femmes. Mais il y a, voilà, il y a une... Et pour les hommes, c'est pareil. Je voulais pas du tout, parce que c'est compliqué ça aussi, je voulais pas qu'elle soit enfermée dans un clicheton. C'est une péruvienne, alors en se demandant quand est-ce qu'elle va nous jouer la quena. Je plaisante, mais pour des gens qui n'ont jamais mis les pieds au Pérou, les gens qui... Parce que c'est ça que j'avais quand même réalisé, mais ça c'est énormément avec les films.
Alors elle n'est pas enfermée, mais on pourrait dire que c'est un syncrétisme quand même.
Ah. Hein? Oui, mais là, il ne faut pas en révéler plus.
Ah oui, bon.
Ouais, voilà.
Dites rien.
Absolument. Non, mais absolument, t'as raison.
On pourrait parler d'un personnage ou on s'est interdit?
Ça dépend lequel. Ah oui, bien sûr. Bon,
Morales. Le général Morales, qui est un personnage quand même... il n'est pas blanc-bleu non plus, lui. Hein. Il est un peu curieux, hein, ouais. pour un général. Et, alors, est-ce que tu te serais-tu inspiré de Francisco Morales Bermudez?
Non.
Pas du tout, d'accord.
Non.
Bon.
Non.
Parce qu'il était
non,
quand
et
même...
ouais, et même
il
pas
est
de...
un peu spécial aussi, celui-là.
Oui, mais quand même, par rapport à celui-là...
Ouais. Celui-là, il est gratiné, quand même.
Voilà,
ouais.
Celui-là, il est gratiné. Celui-là, ouais. C'est il est gratiné. Ouais. Mais lui, c'est pareil, il est... Il est le recoupement de plusieurs personnages réels. Hein. Voilà. Mais non, Morales, non. Et puis, franchement, j'ai même pas pensé... Je dis peut-être une bêtise. Hein. Peut-être qu'à l'époque, au tout début que j'écrivais ce truc-là, peut-être que tout d'un coup, j'ai lu un article avec Morales. Ouais. Ah, j'ai dit, tiens, ça pourrait être... Mais je crois même pas. Ouais. C'est un nom commun. C'est un nom commun. Et je voulais dire un truc, puis je me souviens plus.
Ouais. Eh ben, on va faire une pause musicale, comme ça va revenir. Hein, plutôt que de laisser un blanc.
Vous écoutez Le Monde Merveilleux du Travail sur Radio Libertaire 89.4. C'était le groupe Titas avec le morceau Estado Violencia.
Oui, je ne sais pas si ça se prononce Titas, mais s'il y a
une... Je n'ai pas entendu.
Titas.
Ah oui, bah oui, tu n'as pas de...
Je n'ai pas le retour.
Le groupe, c'était le groupe Titas. Mais Titas, il y a un petit accent là sur le A. C'est du brésilien. En fait, c'est un groupe brésilien et des années 80. Donc, voilà, ça fait un petit peu le lien avec ce qu'on a dit tout début sur Olinda, la ville. Donc voilà, c'est au Brésil.
Ne soyons pas des puristes au plan linguistique.
Ouais.
Les Latinos sont très tolérants par rapport. N'importe quel Latino, c'est beaucoup plus tolérant qu'un Espagnol. N'importe quel Brésilien est plus tolérant qu'un Portugais sur les histoires linguistiques. Ce qui est logique, puisqu'il y a autant d'Espagnols qu'il y a de pays en Amérique latine. Tu vois, c'est le dictionnaire des américanismes, c'est un bouquin, c'est énorme, parce que à chaque pays correspondent des mots que si tu... Moi, tout ce que j'ai appris, enfin, vous voyez, beaucoup de mots que j'ai appris au Pérou et en Bolivie, là, ce qui est très semblable, quand j'ai travaillé à plusieurs reprises au Mexique, et des fois, je me rendais bien compte. Je me disais, tiens, celui-là, il n'a pas compris ce que j'ai raconté. Donc, je demandais. Et il disait, non, on n'a pas compris. Et en fait, parce que et je reprononçais le mot, mais prononciation correcte, etc. Mais ils connaissent pas au Mexique. C'est un, voilà, c'est comme des Québécois qui a un bon. C'est plus encore que les Québécois avec tout un tas de vocabulaire qui remonte. Et les Colombiens, c'était enfin bon, pas bon, voilà. Donc il y a pas de problème. Ne soyons pas puristes là-dedans.
Oui. Bon, voilà, c'était un groupe des années 80. Qui a montré un petit peu un groupe brésilien les plus connus qui avait montré au monde que le Brésil avait aussi des groupes de rock qui étaient capables de créer produire de la musique et qui a généré d'autres groupes comme Sepultura.
Très bon, très très bon.
Et oui.
Très,
pas en écouter bon. Après si vous voulez. Non, on n'aura pas le temps.
Très, très bon.
Mais voilà. des groupes de rock, il y en a aussi beaucoup, c'est en Argentine et au Mexique hein, là ça rigole pas hein, non plus hein. C'est très très bon aussi hein.
Ah, je connais moins, mais j'avoue
c'est que très bon, c'est très bon.
Plus aussi. De références sur le Brésil, en fait.
Ouais. Enfin, ce sont en musique, le Brésil, c'est quand même un monde. C'est un monde.
Ah oui, et puis il n'y a pas que du rock.
Je dis en musique, c'est pas vrai.
Oui, oui.
En même temps, c'est un monde qui est une partie de ce monde est assez proche, parce qu'il y a une frontière commune avec le Pérou.
Bien sûr.
Donc, il y a forcément des échanges, Les populations du Pérou amazonien ils vont et viennent du côté de la frontière quand ils ne sont pas bouffés par les anacondas.
Ou les trafiquants de coke.
Ouais, ou les trafiquants.
Ou les trafiquants de bois précieux, ou ouais, les trafiquants d'or.
Ouais,
c'est une zone magnifique, magnifiquement dangereuse.
Et Olinda, elle n'a pas une grosse culture politique.
Hein. Non.
Hein, c'est ça qui est bien. Enfin, qui est surprenant en tout cas. Ouais. Et c'est le paradoxe de son engagement. C'est qu'en même temps, c'est un moment, c'est dit dans le roman, c'est que c'est pas trop les procès de Moscou, on connaît pas.
J'étais pas né.
Ah, sûrement.
Non, mais c'est un peu de ça.
Et en fait, c'est pas du tout déconnant. C'est-à-dire que c'est comme tu disais en préambule, le marxiste-léninisme-maoïsme au Pérou, ça pourrait faire sourire parce que on est à des milliers de kilomètres et dans une... beaucoup d'étrangers, c'est surtout les Asiatiques, c'est surtout des Japonais, si j'ai bien compris, ouais, dans la région.
Japonais, chinois aussi.
Chinois,
hein. Les Japonais, oui, une grosse communauté japonaise. Ouais.
Donc, on est très loin de Mao, quoi. Et pourtant, le sentier lumineux le maoïsme dans toute son horreur, dans sa révolution culturelle, c'est quand même pas ce qu'il a fait de mieux. À supposer qu'il ait fait quelque chose de bien. C'est un peu frais. Moi, j'ai bien aimé, en fait. Je me suis un peu retrouvé quand même dans Olinda. Hein. Un peu. Alors, je vais pas mettre des trucs comme ça, parce que ça fait chier, mais. Mais tu sais, cette démarche où on est toujours en équilibre, et l'équilibre par définition est précaire, tu es toujours là, tu n'es pas sûr que tu vas tenir sur tes guibolles, que ce que tu vas faire, ça va réussir, que... Puis tu fonces, quoi, tu fais des trucs, tu rencontres, tu... Non, c'est... Et cette culture qui est approximative, mais qui est pas non plus... Enfin, c'est ce pragmatisme, elle le remplace par un pragmatisme. Enfin, j'ai trouvé que c'était ce pragmatisme et qui est sans cesse en devenir, quoi. C'est... Et d'ailleurs, l'épilogue est assez... je suis pas été surpris par l'épilogue, quoi. Je sentais comme ça, quoi.
Dis pas.
Non, je vais pas le dire.
Ah non, là, c'est chaud.
Je vais pas le dire. Non, c'est... Achetez-le, lisez-le.
Et je voudrais juste dire, en parenthèse, on va oublier, ça n'est pas chez l'Armatan. Chez l'Armatan, c'est celui de 2003.
On va rappeler de toute façon, ça n'a rien en fin d'émission, voilà. Effectivement, les références.
Non, mais parce que l'épilogue, il ne faut pas le dire.
Ouais, non, mais je ne vais pas le dire. Mais je vais surtout dire quelque chose qui a été évoqué dans le... Et alors, moi, quand j'écoute comme ça lors d'une conférence, je sais pas d'a priori, j'engrange les trucs, hein, les données pour moi, puis je les range dans les petites cases, un peu comme les psychopathes, je m'organise. Et puis après, une fois que j'ai lu le bouquin, je me dis, putain, je sors ça d'une case, et il y a l'éditeur, dont j'ai plus le nom en tête.
Jean-Michel Ollier, ouais.
Non.
L'autre, Carlos Merkin.
Voilà, parce qu'il y avait deux Jean-Michel, c'est bien retenu. Ouais. C'est pour semer la confusion, c'est possible, c'est un peu... on est dans l'ambiance du roman. Hein. Et quand il a dit, oui, il faut trouver un réalisateur pour faire pour mettre en film ce bout. Bah, moi, je dis non, ne faites pas ça, quoi.
Ouais.
Ne faites pas ça, parce que ça, en fait, ça...
Ça mettrait un visage sur Linda.
Ouais. Et ouais, c'est ça, il ne faut pas le faire. Ou alors, il faut faire jouer le lama.
Mais je crois qu'effectivement, ça avait été évoqué, parce qu'il y a eu une présentation du bouquin, de la sortie du bouquin, c'était vendredi dernier, à la Maison de l'Amérique latine. Et ce qu'avait évoqué là, comment il s'appelle ?
Carlos Merkin.
Carlos, c'était qu'effectivement, c'était conçu un petit peu comme un film. Alors, c'est vrai que j'ai dit que c'est pas chapitré, c'est pas numéroté, mais c'est vrai que c'est assez court en fin de compte. Quand on passe, on va appeler ça des chapitres quand même, on passe d'un chapitre à l'autre. Mmh. C'est pas des donc c'est
séquencé. Ouais.
C'est séquencé et c'est assez court. Mmh. Et c'est peut-être ça qui lui a fait penser que c'était construit comme un film. Alors c'est ça aussi parce que au départ. Tu réalises des films.
Alors voilà, moi je pense que c'est plus ça. Tu
vois. Il était conditionné.
Parce qu'il n'est pas le seul à avoir dit ça. Ils étaient au total depuis le début de la fin de ces histoires-là, depuis que c'est mis en page, machin, hein, ils sont 4-5 à avoir dit ça. Mais en fait, je crois que c'est pas tant que ça le côté polar de défourailleur politique, voilà, que la manière d'écrire qui, effectivement, à certains moments, peut être. Entre guillemets cinématographique, dans le sens où je donne plein d'éléments de description rapide, et pas, je m'éternise pas, même si j'aime beaucoup la littérature du 19e siècle, de temps en temps, elle me fait chier sur les trop longues descriptions, tu vois, les 10 pages sur des rideaux.
T'es bien du 21e siècle, alors. Hein,
ouais. Mais, donc, voilà, tu vois, quelques mots, bon, comme tu fais, effectivement, pour un scénario, tu ne fais pas 10 pages. Tu fais et en fait tout d'un coup ça devient une habitude et donc tu écris en images et il y a des moments où c'est voilà parce que je crois que c'est plus ça que l'histoire elle-même tu vois l'histoire elle-même qui voilà, potentiellement il y a plein d'histoires qui méritent ou je sais pas quoi de
bah là ça te fera un c'est comme ça qu'on dit un Ghostbuster c'est ça.
Un blockbuster.
Blockbuster. Ah, c'est bon, tu vas en anglais. Hein, ouais. C'est blockbuster. Ouais, ça fait un blockbuster hollywoodien, là, ton truc. Ouais. T'as toutes tes ficelles. Bah attends, tu prends n'importe
mais
quel.
Oui, mais alors là, tu dis.
Et alors, faut surtout pas.
Ah bon, voilà, c'est ça.
Bah, surtout pas. Ouais. Rien, jamais, pas de film.
Non, mais pour la suite. Pour la suite. Tous les.
Alors.
La suite du. Hein. Un autre roman. Oh, avec ou sans suite. Hein. Un autre roman.
Ah oui, du coup, est-ce que ça t'a inspiré une seconde vocation ou
ouais, là c'était vocation, juste oui. Ah non, c'est pas juste. C'est pas juste. Moi j'ai toujours dit que c'est l'activité que je préfère. Et en même temps, c'est pas celle que je préfère parce qu'elle est extrêmement solitaire. Et moi, je suis pas un mec solitaire. J'adore travailler dans ce que j'ai le plus aimé dans le fait de faire des films, c'est que t'es toujours une équipe. T'es une équipe et tu vas à la rencontre des gens et tout machin. Voilà. Et tu convoques, tu mobilises. Voilà. Et ça, c'est ce qui me bottait le plus dans le boulot, bien plus que.
Mais c'est ce que tu viens de faire en écrivant le roman.
Oui.
Tu convoques des personnages, tu les mobilises, tu les modèles, tu les mets en scène.
T'es quand même souvent tout seul. T'es souvent tout seul, tu vois. Là, par exemple, tu pourrais. Il y a un autre pays sur lequel j'aurais 1 milliard de trucs à raconter où je pourrais mettre des scénarios, machin, c'est la Bolivie. Bon, c'est une chose de raconter de manière y compris extrêmement vivante 1000 mineurs boliviens qui ressortent de la mine, qui sont en grève avec les bâtons de dynamite et qui veulent aller faire exploser le palais présidentiel et que tu les as, toi, en pleine face et que t'as franchement, t'as la chair de poule de l'émotion, pas du tout de la trouille, hein, parce que personne n'avait rien contre nous. Au contraire, nous étions les camaradas franceses. Voilà, c'est autre chose. C'est génial aussi hein, de l'écrire. Enfin, tu vois, c'est pas du tout pareil.
C'est pas la même émotion.
Vraiment très... Il y a plein de moments comme ça dans la vie où c'est très fort d'être sur les lieux, d'être... Et puis en plus, après, je pense que si moi, j'avais pas fait autant de choses que ça au Pérou, il y aurait éventuellement Linda, mais ça serait un autre Linda. Et comme tu dis, tu as soulevé des trucs jusque dans des détails auxquels moi, je pense pas spécialement, mais c'est intégré dans ma tête. C'est intégré dans ma tête. La rue machin, elle s'appelle vraiment rue machin. Le bar machin, il s'appelle... voilà. Même si je change un peu de nom. Là, par contre, pour le coup, c'est des choses que les Péruviens, les Liméniens... les lieux, volontairement, j'ai changé les noms. Mmh. Mais ils sont morts de rire parce qu'ils reconnaissent tous. Ils disent, ah bah oui, mais ça c'est machin, ça c'est... Voilà. Enfin, ouais. Donc, oui, ça me tente de réécrire. Faut que je trouve... voilà, mais... Et puis, il n'y a pas urgence. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de le faire... C'est de le faire bouger, de le faire circuler, de... Voilà.
Ah ouais, il vient de sortir, on va commencer déjà.
Voilà. Hein, et, mais ça n'empêche pas de penser à... parce que ça prend du temps, mine de rien.
Ouais.
Ça prend du temps.
Si j'ai bien compris, justement, lors de la présentation, ça t'a pris des années, en fin de compte.
Parce que c'est ça. Alors, il y a un processus de maturation.
Il avait d'abord été écrit, laissé un petit peu de côté, et repris...
Un peu beaucoup de côté. Il a été laissé des années de côté. Des années.
Et ça, c'est le problème du volcan. Tu sais, il y a un bouchon.
C'est vrai,
puis un jour paf ça pète et
c'est
puis,
vrai puis après, c'est vrai et après t'as un autre il y a un autre aspect que j'ai trouvé intéressant d'ailleurs dans cette histoire, ça m'est arrivé une fois pour les films mais une fois, c'est que tu laisses dormir ce machin là alors effectivement ce que tu dis pouf il ressurgit et là tu le retravailles mais dans un premier temps tu le retravailles et c'est vachement jouissif avec une grande distance avec ce que t'as écrit, t'es extrêmement critique toi-même de ce que tu as fait avant. Tu dis, oh là là, tu t'es laissé aller, mais mon pauvre vieux, et puis tu réintègres des trucs, etc. Et là, c'est vachement bien. C'est vachement intéressant de bosser comme ça. À partir du moment où t'es capable de le faire, sans être maso, si t'es capable de te mettre des baffes quand tu les mérites, et tu les mérites tout le temps quand tu fais des boulots comme ça. C'est pas des baffes méchantes, mais tu dis, ça va pas, ça le fait pas. Tu pouvais pas, non, c'est trop facile. Ou tu réfléchis vraiment, alors que la première fois, t'as le nez dessus. Bon, c'est... Mais là, maintenant, si je me mettais à un autre truc, ça serait plus non plus tout à fait une première fois. Ça serait une deuxième fois. Ça serait quand même une deuxième fois. Non, mais c'est vrai, tu tires vachement dans... Mais c'est comme pour tout. C'est comme pour tout dans le boulot. Tu tires des enseignements.
Oui, mais est-ce que tu te... Alors, sur la méthode, peut-être, sur l'inspiration, je ne sais pas, mais est-ce que finalement, chaque roman que tu pourrais écrire à la suite d'Olinda, ou de Olinda, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait deux Olinda. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur de typo ou si c'est.
Non, là, c'est.
De style.
C'est une divergence.
Ça m'a. Il y a un débat là-dessus.
Quand on aura coupé.
Oui. Qu'est-ce que je disais en fait, tu repars à la création, c'est-à-dire que c'est la première fois que tu vas écrire ton
absolument,
deuxième.
Absolument,
c'est la première fois que tu vas écrire ton troisième. Tu
vois,
tu penses qu'il y a ça aussi.
Absolument.
Tu en as la nécessité.
Non, absolument. Mais je pense que tu peux être. La deuxième fois, tu as été jusqu'au bout du processus d'un premier. Alors, tout sera différent, mais il n'empêche que tu peux être beaucoup plus dur avec toi-même dès le début. Tu n'es pas obligé d'attendre 6 ou 8 mois d'avoir terminé un truc pour relire et dire c'est de la daube. Chut, on met tout à la poubelle. Tu peux, tu vois, c'est, en fait, fondamentalement, c'est ça que je veux dire. Sans tomber dans le fait que tout d'un coup, ça est.
T'écris directement dans la poubelle, quoi.
tu peux aussi faire ça. Et il y a des maisons d'édition poubelle, hein, ça existe. Ouais. Mais ça n'est pas ça, c'est des gens gentils, c'est du genre de bien.
Ça, c'est du Gallimard ou du. Je fais pas de pub, hein, mais bon. Comme vous parliez d'une.
Mais oui, il faut.
Reprise par une grande maison d'édition, machin, tout ça. Bon. Là, on y est.
Ouais, faut avoir l'entre-gens. Moi, j'ai jamais été, mais même pour les films, c'est ça de mes travers. Dans, ouais. J'ai jamais eu d'entre-gens en particulier.
En dehors de ça, il y a tel. Parce qu'ils publient pas mal de merde quand même. Hein.
Non.
Alors, je sais, je les lis. donc c'est vraiment pas mal de merde. Hein. Donc, là, on n'y est pas. Hein. Alors, encore, je le dis encore une fois, c'est un grand premier roman. Voilà, un grand premier roman.
Pour avoir assisté aussi à la présentation du livre, effectivement, l'engagement des éditeurs, on va dire ça comme ça, parce qu'il y en avait deux. Oui, ils avaient le souci de ne pas éditer la première chose qu'on présente.
Non,
donc, il y a très sélectif. Donc, effectivement, ça rejoint ce que...
Et l'autre fois, on n'est pas rentré dans les détails, mais il a été vraiment... Franchement, il a été d'extrêmement bons conseils. Et il l'a évoqué quand même. Il est d'une certaine manière anti-autoritaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il m'a dit... Il y avait voilà, une séquence dont je ne veux pas parler parce que ça dévoilerait, une séquence qui me tenait vraiment à cœur et qui, pour lui, dans sa première lecture, était un truc qui lui paraissait pas si important que ça. Il n'avait pas. Bon. Et moi, là-dessus, j'ai pas cédé. J'ai dit non, attends, je ne comprends pas ce que tu ne comprends pas. Explique-moi un peu mieux. Je vais essayer, dans une réécriture de ça, de répondre à des questionnements comme le tien, mais je ne supprimerai pas cette séquence. Alors là, il est hors de question. Que je supprime cette scène, ça c'est pas possible. Et il a absolument pas été, enfin tu vois, il a une simplicité, il est parfait, le mec il est parfait, il est un excellent lecteur, parfait, et il est comme tout le monde. Après il peut avoir un avis, et toi tu le partages pas parce que déjà, et puis et après il a entendu ce que je lui ai raconté, il a entendu et son raisonnement était entendable, mais il était pas juste, il fallait. Et ça m'a permis, si, quand même, ça m'a permis de modifier un peu les équilibres, parce que des fois, dans l'écriture, c'est comme dans les films, hein, des fois, tu fais une séquence, elle dure 4 minutes, elle est pas mal, mais, hein, puis tout d'un coup, elle dure 4 minutes 30, et pouf, elle explose. Tu vois, c'est vachement souvent des histoires d'équilibre, ouais. les écritures. La peinture, c'est pareil, tu vois, c'est tout, là, en fait, j'étais pas d'accord. Lui, il disait, sa merde, on supprime. Et je disais, non, tu trouves que ça merde, tu m'expliques pourquoi, et je vais répondre à ce pourquoi, parce que là, surtout pas, on supprime. Voilà. Je te dirai après en off.
en tout cas, on recommande à tout le monde de le lire. Puis en plus, comme ça a été dit aussi à la présentation, c'est bientôt les fêtes de Noël. Profitez-en pour faire des cadeaux. Hein? Pour vous-même et pour les autres.
Alors, j'en ai parlé aujourd'hui à une collègue qui est péruvienne d'origine. Je lui ai conseillé de lire le
qui bouquin. Est prof, non?
Oui.
C'est marrant, il y a plein de profs péruviens à Paris. Plein de profs péruviennes.
Oui.
Péruviennes.
Oui. Et on va en discuter demain. Voilà. Donc voilà, c'est un beau cadeau à faire. Enfin, voilà. Puis de toute façon, un livre, c'est un beau cadeau.
Oui,
déjà.
C'est ça, en soi.
Et comme un film, alors, moi je suis moins film, il faut aller voir Fabrice pour
la... Ouais, c'est pas pareil. Moi je me défais plus facilement. Je suis pas un collectionneur d'ailleurs, du tout. Mais ma bibliothèque, c'est ma. C'est mon lieu chéri.
Ça correspond aussi à un moment de vie.
C'est ça.
Si tu lis un roman ou une nouvelle ou un essai ou de la poésie en fonction de comment tu es,
c'est ça.
Des rencontres que tu as faites, des voilà, parfois tu as fait des rencontres il y a longtemps, et puis il y a un déclic qui vient comme ça, puis tac, qui te rappelle et qui va te faire chercher un bouquin, le lire.
C'est ça.
Et ça correspond à ce moment-là. C'est vrai, je suis assez... Alors, je suis pas bibliophile non plus, parce que j'ai des livres de poche ou merdique, enfin bref.
Ah oui, moi aussi.
Mais c'est le texte. Et ça correspond comme ça.
Non, moments. Puis moi, j'aime bien, j'ai une bibliothèque en partage. C'est fini.
Oui, on va bientôt se quitter, oui.
C'est quand qu'on recommence?
Et quand tu veux.
Faut trouver un truc. C'est vachement bien ici. Moi, j'aime beaucoup. Hein.
Ça fait beaucoup. 4 fois que tu reviens. C'est que ça,
ouais, c'est ça.
C'est qu'on doit être bien ensemble.
Très agréable, très agréable.
Bon, je vais quand même redonner les références. Alors, où est-ce qu'on le trouve, le bouquin Olinda de Jean-Michel Rodrigo aux éditions Pont Neuf? Où est-ce qu'on peut le trouver? Dans toutes les librairies,
tu y passes, tu y commandes, tu l'obtiens par le... Je crois que c'est Hachette qui distribue.
D'accord.
Donc c'est visiblement assez simple, assez rapide. Après, pour ceux qui aiment ce genre de distribution, il y a Amazon. Moi, je commande pas grand-chose sur Amazon, mais même je crois que je commande rien. Mais bon, c'est mon point de vue. C'est même pas un point de vue, c'est un mode de vie. Et puis il y a la Fnac. Et puis il y a la Fnac aussi, distribution Fnac. Dans les gros trucs. Mais après, les libraires.
On va chez un libraire, chez Publico, les éditions du.
Moi j'ai été vérifié dans les 3 belles librairies du 13e, juste à côté de chez moi. Poum, poum, mais en 2 secondes, ils disent ah bah oui, ouais, c'est ça.
Oui, ils commandent de toute façon.
Boum, bah, c'est, voilà.
Voilà. Bah, nous, on vous recommande donc Olinda, avec O-L-I-N-D-A. Voilà. De Jean-Michel Rodrigo.
R-O-D-R-I-G-O.
Non, mais des fois qu'on met un H au Linda. Ouais. Mais tu voulais lire un passage? Mais il est 21h, Eric.
On n'a pas le temps?
On
est obligé de revenir la semaine prochaine. Ouais, enfin, le prochain lundi du mois. Il faut qu'il puisse lire. C'est pas possible, sinon c'est une frustration énorme.
Bon, eh ben, Jean-Michel, on te remercie.
Non, c'est moi qui vous remercie.
Et ben, quand même. Eric, merci. Excuse-nous, Jean-Manuel. Et merci Bénédicte d'avoir assuré la technique. Et on se retrouve le 4 décembre. Quelque chose comme ça.
Merci Bénédicte.
Ciao.
Ciao, ciao.
Nous réaliserons l'idéal de liberté.
Car moi, je veux.
C'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet! Vive la
révolution!